Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. J'enregistre ce cours pour la fête de Sainte Anne, le 26 juillet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes et bien, chers amis, nous commençons le chapitre 14 de Saint Jean, donc dans le fichier qui contient les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15. Nous en sommes à la page 27. Commençons par les versets 1 à 4, donc nous sommes dans ce qu'on appelle le discours après la scène, où notre Seigneur Jésus-Christ épanche son cœur, ouvre son sacré cœur aux apôtres, avant la Passion. Ce sont les derniers conseils, en quelque sorte, de notre Seigneur Jésus-Christ à son Église naissante, juste avant la Passion. Que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que de paroles consolantes nous venons d'entendre là, mes bien chers frères. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc notre Seigneur prévient ses apôtres, voilà, je vais souffrir. Je vais être couronné d'épines, je vais être flagellé, je vais être crucifié, je vais mourir. Il leur a dit ça plusieurs fois. Le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts, puis je monterai au ciel, 40 jours après Pâques, pour la fête de l'Ascension. Mais je ne vous laisserai pas seul. 10 jours plus tard, 50 jours après Pâques, donc je vous enverrai le Saint-Esprit pour vous guider, le Paraclet. Et au ciel, j'y vais pour vous préparer une place. Et je reviendrai à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Donc nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est allé au ciel pour nous préparer une place. Et donc il y a une place pour chacun d'entre nous là-haut, mes bien chers frères, ne jamais oublier ça. Il va nous prendre avec lui si nous sommes jugés dignes d'aller avec lui le jour de notre mort. Évidemment, il y a une condition sine qua non pour pouvoir occuper cette place que Jésus nous a préparée au ciel, à savoir être en état de grâce. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères. On commence par une citation de Saint Augustin. On est à page 27, comme la prédiction que Jésus avait faite à Pierre, toujours plein de confiance et d'ardeur, qu'il le renierait trois fois avant le chant du coq, avait aussi rempli de crainte les autres disciples. Notre Seigneur les rassure en leur disant « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » C'est ainsi qu'il calme le trouble et l'agitation de leur âme en leur donnant l'espérance assurée qu'après les périls et les épreuves de cette vie, ils seraient pour toujours réunis à Dieu avec Jésus-Christ. Donc c'est la vertu d'espérance là qui est annoncée. Il nous donnera cette espérance assurée qu'après les périls et les épreuves, nous serons réunis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les périls et les épreuves, c'est la voie purgative, puis l'illumination, la voie illuminative, afin d'atteindre la voie unitive, la voie mystique. Cette phrase, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, au verset 2, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, c'est une phrase un peu mystérieuse. Mais c'est pour bien montrer qu'il y a de la place pour beaucoup de gens au ciel, à condition d'être en état de grâce. Attention, ne pas avoir l'interprétation moderniste de cette phrase. Les modernistes disent qu'il y a de nombreuses demeures, donc n'importe qui peut aller au ciel, y compris les non-catholiques. Mais non, pas du tout. Au ciel, il n'y a que des catholiques. Personne ne peut aller au ciel sans être catholique, c'est absolument impossible. Ça veut dire, même monsieur l'abbé, si un, par exemple, je ne sais pas moi, un bouddhiste de bonne foi ou un bouddhiste de bonne foi qui a un baptême de désir implicite est au ciel. Donc il y a des non-catholiques au ciel. Attention, si un bouddhiste de bonne foi a un baptême de désir implicite, il n'est plus bouddhiste, il est catholique et il est au ciel comme catholique, en tant que catholique et pas en tant que bouddhiste. Donc il n'y a bien que des catholiques au ciel. Comment voulez-vous être au ciel avec le bon Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sein de la Sainte Trinité, littéralement, si on ne croit pas en la Sainte Trinité? Hein? Donc attention à ça. Que l'un soit supérieur à un autre en force, en sagesse, en justice, en sainteté, aucun ne sera exclu de cette maison où chacun sera placé selon son mérite. Il y a aussi un texte magnifique de Saint Jean Chrysostome que j'utilise souvent pour les retraites, qui explique que c'est la parabole des talents. Qu'il y a différentes demeures dans la maison du Père parce qu'il y a des gens avec différents talents qui y vont. Celui qui avait reçu 5 talents, il doit en donner 10, il aura une grande demeure au ciel. Celui qui n'avait reçu que 2 talents va devoir en rendre 4 et aura aussi une autre demeure au ciel. Celui qui n'avait qu'un seul talent, qui en rend 2, lui aussi sera au ciel, du moment qu'il a rempli son devoir d'État. Il y en a qui sont arrivés à la première heure, puis il y en a qui sont arrivés à la dernière heure. Je vais vous relire ce texte splendide, même si je l'ai déjà cité. Il a été écrit par Saint Jean Chrysostome. C'est la conclusion d'un article magnifique écrit par un inconnu. J'ai jamais réussi à trouver qui a fait cet article sur une étude sur le Saint-Suaire, la passion du Christ selon le Saint-Suaire. Et voilà la conclusion. Nous ne pouvons mieux faire que de terminer ce témoignage sur le Saint-Suaire par le serment de Pâques donné par ce grand amoureux de Dieu qui était Saint Jean Chrysostome il y a 1600 ans, mais toujours aussi jeune. Voilà le texte en question que j'ai déjà cité, je pense, dans d'autres circonstances, et je vous le recite parce qu'il est splendide. Un grand grand-père de l'Église, Saint Jean Chrysostome. Si un homme est dévot et aime Dieu, qu'il participe à cette magnifique fête de Pâques. S'il fut un serviteur fidèle, qu'il entre dans la joie de son Seigneur. S'il a longtemps travaillé dans le jeûne, qu'il reçoive maintenant sa récompense. S'il a ployé sous le fardeau depuis la première heure, qu'il obtienne aujourd'hui ce qui lui est dû en justice. S'il est arrivé à la troisième heure, qu'il garde néanmoins avec action de grâce son cœur à la fête. S'il ne s'est présenté qu'à la sixième heure, qu'il n'ait aucun doute, rien ne lui sera ôté. S'il a attendu la neuvième heure, qu'il s'approche cependant sans crainte. S'il a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il ne s'alarme pas de son retard, car le Seigneur, qui est jaloux de son honneur, acceptera le dernier comme le premier, et il donnera à l'un comme à l'autre. Il accepte les œuvres et reconnaît les intentions. Il honore les actes et loue les offrandes. Et s'il a donné le repos à l'ouvrier de la première heure, il l'accordera également à celui qui n'est arrivé qu'à la onzième. Ainsi entrez tous dans la joie de votre Seigneur et recevez votre récompense, les premiers comme les derniers, riches et pauvres, tous ensemble, réjouissez-vous, vous qui veillez et vous qui étiez inattentifs, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, vous qui avez jeûné et vous qui avez oublié le jeûne. La table est toute garnie, festoyez somptueusement. Le veau gras est tué, que personne ne reste sur sa faim, et que tous participent avec joie à cette fête de la foi. Recevez tous les richesses de la charité aimante, que personne ne craigne sa pauvreté, car le royaume vous est donné. Ne pleurez plus vos iniquités, car le pardon a été accordé du tombeau. Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a tous libérés. Celui qui était prisonnier l'a détruite. En descendant aux enfers, il en est devenu le maître. Déjà le prophète Isaïe, en prédisant ce jour, avait pleuré de joie. L'enfer grince des dents. Car son pouvoir est détruit, il rugit car il est couvert de chaînes, il trépigne de rage car il vous a vu triomphant dans la région des pleurs. Il avait pris une apparence corporelle mais a vu Dieu face à face. Il croyait avoir détruit la terre mais trouva le ciel devant lui. Il avait conquis ce qui peut être vu mais tomba devant l'invisible. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité et tu es tombé, renversé, tu as été renversé, les démons sont tombés, les anges se réjouissent, la vie règne et pas un mort ne demeure dans la tombe. Car le Christ s'étant levé d'entre les morts est devenu le premier fruit de ceux à qui s'étaient endormis. À lui la gloire et la puissance dans tous les siècles des siècles. Fin de ce texte de Saint Jean Chrysostome. C'est exactement peut-être le meilleur commentaire sur ce
Ces deux versets, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez, c'est là toute la vertu d'espérance. J'espère avec une ferme confiance au mon Dieu que me donnerait par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et vous êtes fidèle à vos promesses. Si je suis les commandements de Dieu. Attention, il y a une condition. Que l'un soit supérieur à un autre en force, en sagesse, en justice, en sainteté, aucun ne sera exclu de cette maison où chacun sera placé selon son mérite. Tous recevront également le denier que le père de famille ordonne de donner à ceux qui ont travaillé à sa vigne. C'est exactement ce commentaire que nous venons de lire. Donc ce denier, d'après les pères, est le symbole de la vie éternelle, qui n'a pour personne durée plus longue, parce qu'il ne peut y avoir de degré plus ou moins grand dans l'éternité. On est au ciel ou on ne l'est pas. Celui qui est au ciel, il voit Dieu. Certes, chacun verra Dieu en fonction du degré de charité qui était le sien au moment de sa mort. Mais on verra tous Dieu. Le grand nombre de demeures signifie donc les différents degrés de mérite qui existent dans cette seule et même vie éternelle. Donc ne soyons pas jaloux, mes bien chers frères, de ceux qui ont reçu beaucoup plus de grâce que nous. Ne soyons pas jaloux de ceux qui ont une âme beaucoup plus grande que la nôtre. L'important, c'est que mon âme soit pleine du bon Dieu. Mon âme est petite, elle est plus facilement remplie du bon Dieu. Mon âme est très grande, il va falloir qu'elle soit complètement remplie de la charité incarnée qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je répète cette phrase, cette explication des pères qui est très bonne. Pour expliquer cette phrase, dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Donc le grand nombre de demeures signifie donc les différents degrés de mérite qui existent dans une seule et même vie éternelle. Mais comment notre Seigneur peut-il aller nous préparer une place, puisque d'après lui, il y a déjà un grand nombre de demeures? C'est qu'elles ne sont pas encore comme elles doivent être préparées, car les demeures qu'il a préparées par la prédestination, il les prépare encore par son action divine. Donc, il n'est jamais trop tard pour nous, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Attention, pour changer de vie, se convertir, il faut la grâce du bon Dieu, il faut l'usage de notre liberté et il faut du temps. Tant qu'il y a le temps, la grâce et l'usage de notre liberté, on peut se convertir. Une fois qu'on est mort, c'est fini, on n'est plus dans le temps. On passe du temps à l'éternité. Qui dit éternité dit absence de changement. Il n'y a plus de mouvement dans l'éternité, puisqu'il n'y a plus de temps. Le mouvement, je vous le rappelle, c'est le passage de la puissance à l'acte. Et donc, comme il n'y a plus de temps dans l'éternité, il n'y a plus de mouvement possible. Comme on meurt, on reste. Je meurs ami de Dieu, je reste ami de Dieu pour toute l'éternité. Je meurs ennemi de Dieu, je reste ennemi de Dieu pour toute l'éternité. Donc ces demeures existent donc déjà dans les décrets de sa prédestination. Autrement, il aurait dit, j'irai, je préparerai, c'est-à-dire je prédestinerai une place. Mais comme elles ne sont pas encore l'objet de l'action divine, il ajoute, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Or, il prépare maintenant ces demeures en leur préparant ceux qui doivent les habiter. Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions occuper la place qu'il a voulu nous donner au ciel de toute éternité. De toute éternité, Dieu a pensé à chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Donc, il ne faut jamais, jamais se décourager. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'orgueil. On peut aller au ciel, bien sûr, avec la grâce du bon Dieu. On ne peut pas y aller tout seul à force du poignet. Il n'est pas question d'aller au ciel si on ne vit pas en état de grâce. Donc les conditions pour aller au ciel, c'est la vertu de charité. Lorsque le Sauveur a donc dit, il y a un grand nombre de demeures dans la maison de mon Père, que devons-nous attendre par cette maison de Dieu, si ce n'est le temple de Dieu? Temple dont l'apôtre dit, le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes ce temple. Or cette maison est encore en voie de construction et de préparation. Mais pourquoi faut-il qu'il s'en aille pour cette préparation? Puisque c'est lui-même qui nous prépare. Ce qu'il ne peut faire s'il le sépare de nous. C'est lui-même qui nous prépare ce qu'il ne peut faire s'il le sépare de nous. Le bon Dieu est donc plein de miséricorde pour le pécheur repentant. Oui, il faut, beaucoup de nos fidèles sont parfois un peu découragés à cause de la vie passée. Monsieur l'abbé, j'ai fait de telles bêtises dans le passé. Est-ce que le bon Dieu va avoir pitié de moi? Bien sûr que le bon Dieu va avoir pitié de vous. Parce qu'il est venu justement pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les grands saints. D'abord, il est venu d'abord pour les malades. Et nous, on est des malades, nous sommes des pauvres types. Et bon Dieu est venu pour nous. Ne l'oublions pas, mes bien chers frères. On avance en bas de la page 27, les versets 5 7. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, comment pourrions-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Et si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et bientôt vous le connaîtrez, vous l'avez déjà vu. Là, on a cette phrase, Saint Jean, chapitre 14, verset 6, je suis la voie, la vérité et la vie. Certainement une des phrases les plus importantes de la Sainte Écriture. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie, parce que je suis Dieu, dit notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, l'essence et l'existence sont identiques. Nous ne pouvons pas prononcer cette phrase nous concernant. On ne peut pas dire je suis la voie, je suis la vérité et la vie. Dieu seul peut dire ça. On peut dire je suis sur la voie que Dieu m'a préparée. Je suis, dans le sens du mot suivre, je suis la vérité que Dieu m'annonce. Et je vis de la vie divine et de la vie que m'a donnée notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne peux pas dire que je suis la voie incarnée, la vérité incarnée, la vie incarnée. Parce que la voie, quand Dieu dit « je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie », il dit tout simplement « je suis Dieu ». Je suis l'alpha et l'oméga, je suis tout. Donc la voie qui amène à Dieu, c'est déjà Dieu. La vérité qui est Dieu, c'est déjà Dieu. La vie qui est en Dieu est déjà Dieu lui-même. Et nous allons un petit peu voir ces commentaires magnifiques des pères de l'Église sur cette phrase « je suis la voie, la vérité, la vie ». Pages 28 et 29. Donc j'ai fait un peu un résumé de tout ce qu'ont dit les pères. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, j'ai deux pages complètes de citations de l'écriture des pères de l'Église sur cette phrase magnifique « je suis la voie, la vérité et la vie ». Commençons à la page 28, en haut de la page. Citation de saint Augustin. C'est-à-dire, où voulez-vous aller? Je suis la voie. Où voulez-vous aller? Je suis la vérité. Où voulez-vous demeurer? Je suis la vie. Tout homme est capable de percevoir la vérité et la vie, mais tout homme ne trouve pas la voie qui y conduit. Donc Dieu nous a donné une intelligence dont l'objet formel est le vrai. Donc tout homme est capable, en utilisant son intelligence, tous les hommes ont une intelligence, de percevoir la vérité et la vie. Mais pour atteindre cette vérité, il faut utiliser notre volonté avec la grâce du bon Dieu. Donc il n'y a pas besoin, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça souvent, surtout dans les commentaires sur saint Thomas d'Aquin, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tout homme ayant une intelligence est capable, même sans la foi, même sans la grâce sanctifiante, d'atteindre une connaissance naturelle de Dieu. Il peut prouver par le simple usage de sa intelligence, sans la foi et sans la grâce sanctifiante, il peut prouver l'existence de Dieu. Il peut prouver l'existence d'un Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Il peut prouver l'existence d'un Dieu créateur. Il suffit de contempler un magnifique coucher de soleil et de se dire, voilà, il n'est pas possible que des beautés pareilles aient été faites sans que quelqu'un, une intelligence supérieure, ait agencé cette beauté. Il suffit de voir une merveilleuse rose et sentir mettre son nez sur une rose magnifique dans un jardin et se dire c'est pas possible qu'une beauté pareille ait pu se faire toute seule. Il suffit qu'un scientifique honnête contemple une analyse d'ADN et voit la complexité d'un chromosome pour se dire c'est pas possible que des choses aussi extraordinaires puissent s'être organisées toutes seules. Il a bien fallu une intelligence pour diriger tout ça. Donc il y a un premier moteur, il y a une première cause efficiente, donc il y a une intelligence qui gouverne tout. Alors attention, ça ne suffit pas. La connaissance de Dieu naturelle est possible sans la foi catholique et sans la grâce sanctifiante. Mais pour passer à l'étage supérieur, par exemple pour comprendre, pour au moins accepter l'incarnation et la rédemption, là on passe dans le mystère. On est au-delà d'une connaissance naturelle de Dieu. Alors là, il faut la foi. Il faut la foi. Et la foi ne suffit pas. Attention, n'oublions pas ça, mes bien chers frères. Il faut la foi, mais la foi formée par l'intelligence. Et je reprends, la foi formée, excusez-moi, par la vertu de charité. Si je crois que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix le jour du Vendredi Saint, j'ai la foi, mais ça ne suffit pas. Le démon, il a la foi, il croit, il tremble. Ça ne suffit pas. Il faut la charité, parce que c'est la charité qui va donner la forme de la foi. La foi sans la charité est une foi morte, dit Saint Jacques. Donc il faut les œuvres de la foi. Quelles sont les œuvres de la foi dont parle Saint Jacques? Les œuvres de la foi, c'est précisément la vertu de charité. Encore une fois, n'oublions jamais le texte fondamental de Saint Paul. Ce texte extraordinaire qu'on trouve en 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle toutes les langues des hommes et le langage des anges, et que je n'ai point la charité, je ne suis que comme un airain sonnant, une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères et que j'aurai une parfaite science de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi possible jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que j'aurai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, tout cela ne me sert de rien. La charité patiente, elle est douce, elle est bienfaisante. La charité n'est point envieuse, elle n'est point téméraire, elle est précipitée, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point dédaigneuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle ne se pique pas, elle ne s'aigrit de rien, elle n'a point de mauvais soupçons. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout. La charité ne finira jamais. Les prophéties, n'auront plus de lieu. Les langues cesseront, la science sera abolie. Car ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait. Mais lorsque nous serons dans l'état parfait, tout ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je jugeais en enfant, je raisonnais en enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de tout ce qui tenait de l'enfant. Nous ne voyons maintenant que comme un miroir, et en des énigmes, mais alors nous ne verrons Dieu face à face. Nous verrons Dieu face à face. Je ne connais maintenant Dieu qu'imparfaitement, mais alors je le connaîtrai comme je suis moi-même connu de lui. Ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, demeurent la charité la plus excellente des trois. On dit que c'est la plus belle page de l'Écriture sainte. Il faut la méditer, mes bien chers frères. Quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien, dit Saint Paul. C'est ça l'esprit qui parle. Je peux avoir nourri tous les migrants de la planète. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est quoi la charité? C'est nourrir les migrants? Bien sûr que non. La charité, c'est de vivre en état de grâce. La charité, c'est de remplir la loi du bon Dieu. Ne jamais oublier ces choses absolument, absolument essentielles, mes bien chers frères. Tout homme est donc capable de percevoir la vérité et la vie, mais tout homme ne trouve pas la voie qui conduit. Si je ne suis pas en état de grâce, je peux connaître toutes les choses de Dieu, ou beaucoup de choses de Dieu, au moins sur le plan naturel. Mais s'il me manque là, la charité, il manque tout. N'oublions pas, mes bien chers frères, c'est essentiel de comprendre cela, que la foi ne suffit pas pour aller au ciel. Il faut la charité. La foi sans la charité, ça vaut rien. La charité, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la voix du bon Dieu et qui la met en pratique. Si je n'ai pas la charité, je suis tout simplement, je suis un homme des ténèbres, un fils des ténèbres, alors que le bon Dieu veut que nous soyons fils des lumières. Ce sont les fils des lumières qui entrent dans le royaume des cieux. Et les fils des lumières, c'est quoi? Les fils des lumières, c'est ceux qui ont la vertu de charité, c'est-à-dire ceux qui vivent en état de grâce, ici-bas, pouvoir mourir en état de grâce. Que Dieu soit une certaine vie éternelle et une vérité que l'on peut connaître, c'est ce que les philosophes de ce monde ont eux-mêmes compris. Mais c'est le Verbe de Dieu qui, dans le sein du Père, est la vérité et la vie qui est devenue la voie en se revêtant de notre humanité. Donc la voie, Dieu est vérité, Dieu est vie, il devient voie par le mystère de l'incarnation. Il y a tout là-dedans. C'est le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui dans le sein du Père est la vérité et la vie, qui est devenue la voie en se revêtant de notre humanité. En prenant une chair humaine dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars, Dieu devient alors qu'il était la vérité et la vie, il va devenir la voie pour nous indiquer le chemin à prendre. Marchez par cette humanité et vous arriverez jusqu'à la divinité. Car il va encore mieux marcher en boitant dans la voie que de faire de grands pas hors de la voie. Quelle phrase magnifique des pères. Saint Augustin, je pense. Je répète cette phrase. Il vaut encore mieux marcher en boitant dans la voie que de faire de grands pas hors de la vérité. Ça, c'est le monde moderne. On fait des grands discours, on fait des grandes choses hors de la voie. Il manque l'essentiel. Moi, je peux dire, en tant qu'homme, je suis dans la voie. Je suis, Je me mets à la suite de la vérité. Je suis vivant de la vie que notre Seigneur Jésus-Christ me donne. Mais évidemment, je ne peux pas dire « je suis la vérité ». Dieu seul peut dire « je suis la vérité ». Rappelez-vous ce qu'il a dit à Moïse avec l'épisode du buisson ardent, alors que Moïse gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Le buisson ardent qui brûle sans se consumer, c'est le symbole de l'incarnation. Eh bien, qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ ? Ego sum qui sum. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est, c'est un synonyme de la phrase, ça correspond à je suis la voie, la vérité, la vie, c'est la même chose. C'est le même message. Je suis la voie, je suis la vérité, la vie. On peut dire je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, parce que je suis celui qui est. Et je suis celui qui est, et étant celui qui est, alors je suis la voie, la vérité, la vie. Étant l'unique personne en qui l'essence et l'existence sont identiques, parce que je suis celui qui est, j'ai toujours été, j'ai pas besoin de m'adapter au monde moderne, c'est le monde moderne qui doit s'adapter à moi, sinon il va mourir. Et bien donc je suis la voie, la vérité, la vie, l'unique voie. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par la voie que j'ai choisie. Je suis la vérité parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Hors de la foi catholique, il n'y a pas d'autre vérité. Et je suis la vie parce que hors de la vie divine, c'est la mort. Donc méditez, mes bien chers frères, ce texte splendide. C'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras. Il vaut encore mieux marcher en boitant dans la vie que de faire de grands pas hors de la voie. Puis un texte de Saint-Hilaire. Celui qui est la voie ne vous conduira pas dans les chemins perdus et sans issue. Celui qui est la vérité ne peut vous tromper. Celui qui est la vie ne vous laissera pas dans l'erreur de la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique voie, mes bien chers frères, l'unique vie, l'unique vérité. Donc si je ne suis pas dans la voie, la vérité et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis hors de la voie. Hors de la voie, c'est le précipice. Il n'y a qu'un seul chemin pour monter au ciel. Ce chemin unique pour monter au ciel, c'est le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a tracé. Il l'a tracé par l'incarnation, par la naissance dans la grotte de Bethléem et par le calvaire. Donc il faut passer par ces trois stades, il faut passer par l'incarnation, il faut passer à Bethléem, il faut passer par Bethléem, la nativité, il faut passer par Jérusalem et le calvaire pour aller au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans lui. Donc il n'y a pas différentes voies pour aller à notre Seigneur. Il n'y en a qu'une, mes bien chers frères. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel je puisse être sauvé que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ces textes magnifiques qu'on retrouve là. C'est Saint Luc qui parle, les Actes des Apôtres. Juste après la guérison du boiteux à la belle porte du temple. Ô Israélites, dit Saint-Pierre, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre vertu, par notre puissance que nous eussions fait marcher ce boiteux ? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils, Jésus, que vous avez livré et renoncé devant Pilate, qui avait juré qu'il devait être envoyé absous. Vous avez renoncé le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on accordât la grâce à un homme qui était un meurtrier. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous sommes témoins de sa résurrection. C'est sa puissance qui, par la foi en son nom, a raffermi les pieds de cet homme que vous avez vu boiteux et que vous connaissez. Et la foi qui vient de lui a fait devant vous le miracle d'une si parfaite guérison. Et comme il faut, mes bien chers frères, méditer ces textes essentiels et se convaincre qu'il n'y a qu'un seul Dieu hors duquel il ne peut y avoir de salut. Personne ne peut être sauvé sans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé parce que justement, il est la voie, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Ne jamais oublier ceci, mes bien chers frères. Notre texte magnifique aussi. Il y a d'autres textes splendides. Théophylacte, lorsque vous menez la vie active, Jésus-Christ est pour vous la voie. Lorsque vous persévérez dans la vie contemplative, il devient pour vous la vérité. Et je suis la voie, la vérité et la vie. Et si je me mets sur le chemin du calvaire, je vais trouver la vérité. Trouvant la vérité, je vais trouver la vie. Donc celui qui est la voie, il faut mettre ça en parallèle avec le texte que je viens de citer de Saint-Hilaire, celui qui est la voie ne conduira pas par des chemins perdus et sans issue, parce qu'il est le bon pasteur, et qui mène ses brebis par le bon chemin. Celui qui est la vérité ne peut nous tromper, celui qui est la vie ne nous laissera pas dans l'erreur de la mort. Il faut répéter souvent, mes bien chers frères, les actes de foi, d'espérance et de charité. Je suis la voie, je suis la voie, la vérité, je suis la vie, ça correspond aux trois vertus théologales, évidemment, de foi, d'espérance et de charité. Donc la vie est le fruit de l'action de la vie contemplative, car il faut nécessairement marcher, annoncer l'évangile pour mériter la vie future et éternelle. Je répète cette phrase, la vie est le fruit de l'action de la vie contemplative. La vie contemplative nous amène à la vie éternelle. On peut encore rattacher ces paroles, entre autres, entre elles d'une autre manière, comme on ne peut aller au Père que par le Fils, il faut examiner si c'est par sa doctrine ou par la foi en sa nature divine. La foi, encore une fois, n'est pas suffisante, mes bien chers frères. Il faut l'espérance aussi et la charité. Rappelez-vous, je vous l'ai souvent expliqué, on peut avoir la foi et l'espérance sans la charité. Il manque le principal. La foi et l'espérance sans la charité sont des fois et des espérances moribondes, parce qu'il manque l'essentiel. Par contre, si j'ai la charité, ipso facto, j'ai la foi et l'espérance. On ne peut pas avoir la charité sans foi et espérance, c'est impossible. La réponse à cette question se trouve donc dans les paroles qui suivent. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. En effet, le Sauveur a suivi cet ordre dans le mystère de son incarnation qui avait pour objet de confirmer la nature divine de son Père. Il a distingué le temps et la vision, le temps de la vision du temps de la connaissance. Celui qu'ils doivent connaître bientôt, ils l'ont déjà vu. Ils devaient recevoir par l'effet de la révélation l'intelligence de la nature divine qu'ils avaient contemplée en lui. Dieu va amener, on voit très bien, il est au bord de sa passion, quelques secondes, quelques heures avant sa passion, et donc il ouvre son cœur pour leur faire comprendre que celui qui voit le Fils voit le Père. Vous le connaîtrez comme vous, et vous l'avez déjà vu. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Donc, saint Thomas va poser deux questions au Christ. Où allez-vous? Par quel chemin y allez-vous? Sur verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Il est, et notre Seigneur est la voie que vous cherchez, une voie qui ne trompe pas, une vraie voie qui conduit à la vraie vie, à Dieu le Père au paradis, la maison du Père où il y a plusieurs demeures. Okay. Mais rappelez-vous que ces différentes demeures représentent justement les différents degrés de mérite qui existent dans cette seule et même vie éternelle. Quels que soient les degrés de mérite que nous avons, nous rentrons dans la même vie éternelle, dans la même possession de Dieu. Mais les degrés de charité sont différents. Attention, donc il n'y a pas d'égalité au ciel. C'est évident que le degré de gloire de notre Sainte Vierge Marie est largement supérieur au degré de gloire que vous et moi nous aurons au ciel si nous y allons. Donc, relisez ces textes splendides. Là, j'ai pris vraiment la moelle de ces textes. Il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses dans saint Thomas, entre autres. J'ai pris ce que j'ai pu. Rien ne vous empêche d'aller travailler par vous-même. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Le Père est donc le but à atteindre. Je suis le maître, le chef, le guide qui mène à la vraie voie. Par la vraie voie, la vie béatifique et éternelle. J'enseigne la vraie foi et la vie sainte. Vos yeux verront ceux qui vous instruisent, et vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira, voici le chemin, suivez-le, quand vous vous détournerez à droite ou à gauche. Si notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est la vraie voie, qu'il est la vraie foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fausse foi, une fausse voie. Quand il dit, je suis la voie, la vérité et la vie, il dit, je suis la vraie voie, la vraie vérité, la vraie vie, sous-entendu, il y a une fausse voie, une fausse vérité, une fausse vie. En fait, il faut changer un peu la phrase en disant, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la voie et la vérité et la vie » parce qu'il existe des millions de fausses voies, de fausses vérités et de fausses vies. Le nombre de faux dieux est incalculable dans le monde moderne. Le nombre de fous est infini. Donc, soyez pas surpris, mes chers frères. Il n'y a qu'une seule voie hors de laquelle personne ne peut être sauvé. Et cette voie, c'est la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas possibilité d'aller à Dieu sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est absolument impossible. Alors, les pères expliquent le Christ est la voie, car par les mains de sa passion, il nous a ouvert le chemin du ciel. Encore une fois, le chemin du ciel passe par le Golgotha, passe par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par sa doctrine, il nous montre ce même chemin. Il nous inspire par la foi et sa grâce, les bonnes œuvres et les mérites par lesquels nous marchons vers la vie éternelle. La grâce, c'est la charité. La charité et l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est une seule et même chose, mes bien chers frères. Donc la grâce va venir former la foi, donner la vie à la foi. La foi sans la grâce, c'est-à-dire la foi sans la charité, est une foi morte. Donc le Christ est la voie, car par le chemin d'une vie sainte et par sa passion, il nous a précédés, foulant la route que nous devons suivre en l'imitant pour arriver au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ nous indique la voie, il faut le suivre, mais il faut le suivre en portant sa croix. Notre Seigneur Jésus-Christ devant nous demande de le suivre, mais qu'est-ce qu'il a sur les épaules? Il a la croix. Et là, il ne s'agit pas de dire, oh mon Dieu, moi je veux bien vous suivre, mon Dieu, mais tranquillement, hein, je ne porte pas un sac à dos trop lourd, une petite croix simplement, je vous regarde, je vous encourage de la voir, éventuellement je pourrais soulever un petit peu la croix pour vous aider à passer un passage un peu difficile, mais c'est vous qui la portez, mon Dieu. Non, Dieu la porte, la Sainte Vierge Marie est derrière nous. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est dedans, et devant, portée par notre Seigneur Jésus-Christ, la très Sainte Vierge Marie est derrière nous, elle porte la deuxième partie de la croix, la deuxième partie du poids de la croix, mais moi je suis au milieu et il faut que je coopère à ce portage de la croix. Il y a d'autres explications, j'ai mis un peu ce que j'ai trouvé, page 28. Saint Léon le Grand, le Christ est le chemin de la sainte conversation, la vérité, la doctrine divine, la vie de la béatitude éternelle. Encore une fois, il est l'unique moyen de salut. Saint Cyril, il est notre chemin par les actions de sa vie, la vérité par la foi droite, la vie par la source de toute sanctification. Donc pas. Étant la voie, la vérité, la vie, il est la foi, l'espérance et la charité. Personne ne vient au Père qui est la vraie vie et la béatitude s'il ne marche par amour avec moi qui suis le chemin, par la foi en croyant en moi qui suis la vérité, par l'espérance en se confiant à moi qui suis la vie éternelle. Vous voyez là, on voit bien les trois choses. L'espérance, c'est la vie, je suis la vie. La foi, je suis la vérité, et tout ça est résumé par « je suis la voie, la charité, je suis la vérité, la foi, je suis la vie, l'espérance. » Je répète cette phrase. Personne ne vient Père s'il ne marche par amour avec moi qui suis le chemin, par la foi en croyant en moi qui suis la vérité, par l'espérance se confiant en moi qui suis la vie éternelle. Autre texte de Saint Bernard en bas de la page 28. Suivons le Christ, ô Seigneur, par vous et en vous, car vous êtes le chemin, la vérité et la vie, le chemin par l'exemple, la vérité par la promesse, la vie par la récompense. Je suis le chemin que vous devez suivre, la vérité à laquelle vous devez venir, la vie en laquelle vous devez demeurer. Notre Seigneur Jésus-Christ est comme un aimant qui nous attire, si vous voulez. Cet aimant, c'est la charité incarnée. Dieu est l'unique vérité. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis amour ». Deus caritas est. Je suis charité. Je suis la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Dieu est mort sur la croix en tant qu'homme par amour pour son Père. Donc il a le droit de dire « Je suis la vérité, je suis la voie, je suis la vie ». Et ça peut être résumé par une autre phrase « Je suis la charité ». Deus caritas est, Dieu est charité. Il ne faut pas traduire ça « Je suis l'amour ». Dieu est charité, Dieu est la grâce sanctifiante lui-même, puisque la grâce sanctifiante est créée par Dieu. Donc il aime plus que la grâce sanctifiante, il est l'auteur même de la grâce sanctifiante. Continue avec ces textes splendides. Page 29, un texte de saint Augustin cette fois-ci. Le Christ est le chemin selon son humanité par laquelle il vient à nous et retourne au Père. Rappelez-vous le bon samaritain. Donc ce chemin qui mène de Jérusalem, un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est un homme qui descend du ciel pour retomber sur la terre. C'est Adam qui quitte le paradis terrestre par son péché et qui tombe entre les mains du démon, qui est à moitié mort sur le bord du chemin. Heureusement que le bon samaritain passe, c'est notre Sainte Vierge Marie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous voulez. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il place ce moribond sur son humanité, sur sa monture, et prend le chemin qui mène à l'auberge. Et cette auberge, c'est l'Église. Donc le chemin sur lequel le bon samaritain progresse avec son âne qui porte le moribond, c'est le chemin de la vérité. C'est l'unique chemin, l'unique Église, l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Il est la vérité et la vie selon sa divinité. Quel chemin devez-vous prendre? Je suis la voie. Où allez-vous? Je suis la vérité. Où demeurez-vous? Je suis la vie. Tout homme désire la vérité et la vie. Ces textes sont tellement beaux, mes bien chers frères, qu'on peut vraiment les méditer. Je vous conseille de relire lentement ces textes. Quel chemin dois-je prendre? Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, son Église est la voie. Où est-ce que je vais? Je suis la vérité. Où demeurez-vous? Je suis la vie. Les philosophes eux-mêmes virent d'une manière imparfaite que Dieu était la vérité et la vie, mais tous ne trouvèrent pas le chemin. Prenez par exemple Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà arrivé à prouver l'existence de Dieu avec les 5 voies, par simplement l'usage de notre intelligence. L'usage de notre intelligence. Il est déjà arrivé au premier moteur, il est déjà arrivé à la première intelligence, il est déjà arrivé à la première cause efficiente de toute chose, alors qu'il était païen. Bon, attention, est-ce qu'il est mort en état de grâce? Ça, on ne sait pas. Dieu seul sait. Marchez près de cet homme et vous arriverez à Dieu. Sous la forme d'un servant, le Seigneur vient à nous. Il retourna à lui-même, reprenant la chair de la mort à la vie. Par la chair, il vint à l'homme comme Dieu, comme la vérité vers les menteurs. Car Dieu est vérité, mais l'homme est un menteur. Donc Dieu, par sa vérité, sa voix et sa vie, va effacer tous les mensonges de l'homme moderne, parce que justement, il est la vérité. Il va effacer toutes les fausses manœuvres, il va remettre les gens sur le droit chemin et empêcher les gens d'aller sur le mauvais chemin. Et il est aussi la voie, la vérité et la vie. Donc, il va ressusciter les morts, à condition, encore une fois, que j'accepte de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est la seule vérité, le seul chemin qui mène à Dieu. Saint Hilaire, celui qui est la voie ne peut nous guider vers l'erreur. Celui qui est la vérité ne peut nous décevoir par des illusions. Celui qui est la vie ne peut nous entraîner dans la terreur de la mort. Si je suis la voie, vous n'avez pas besoin d'un autre guide. Si je suis la vérité, je ne peux déclarer ce qui est faux. Si je suis la vie, même si vous mourrez, vous viendrez à moi. Et attention, notre Seigneur Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie. Mais cette voie, cette vérité et cette vie ne peuvent être trouvées, mes chers frères, que dans l'Église catholique. Attention, pas en dehors, hein. C'est impossible. Saint Jean Chrysostome, je suis la voie parce que vous devez venir par moi. Je suis la vérité parce que les choses que je dis ne peuvent être questionnées. Je suis la vie car la mort elle-même ne peut vous empêcher de venir à moi. On ne change pas la vérité catholique. Quand vous entendez aujourd'hui l'Église officielle d'Allemagne, derrière le cardinal, je crois que c'est le cardinal Marx, qui porte bien son nom celui-là, qui demande la dépénalisation de l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité. Mais c'est ahurissant. Voilà où on en arrive quand on a perdu l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Ces gens qui entre autres dans la conférence épiscopale de l'Église de Vatican II d'Allemagne, ils n'ont plus 50% de la vérité, 50% de la foi, ils n'ont plus de foi du tout, c'est plus rien du tout. Tout est mort. Ce sont des cadavres ambulants. Marchons sur ce chemin, tenons la vérité, suivons la vie. Le chemin nous conduit, la vérité nous confirme, la vie est donnée à ceux qui persévèrent. Nous vous suivons, Seigneur Jésus, mais appelez-nous pour que nous suivions, car personne ne peut monter sans vous. Recevez-nous comme la voie, confirmez-nous comme la vérité, poussez-nous comme la vie. Pour relire ces textes, les méditer, il est la voie, la vérité, la vie. Et puis il y a un symbole derrière, le symbole des 3 voies, ce qu'on appelle les 3 voies, la voie purgative, la voie illuminative, la voie unitive, la voie purgative et la voie de purification qui amène après la nuit des sens à la voie illuminative, où on reçoit les lumières du Saint-Esprit. Après le passage par la nuit de l'Esprit, on passe à la voie unitive, la voie mystique. Et voilà ce que disent les Pères, le Christ est la voie des commençants. Les purifiant par la foi, par la haine du péché, la détestation de leur vie passée. Ça, c'est la foi, la vertu théologale de foi. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, enseignées par votre Église, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc le Christ est la voie des commençants. La vérité est pour les progressants. La voie des commençants, c'est la voie purgative, la voie de purification. Les progressants, c'est la voie illuminative. Ça correspond à la vertu d'espérance. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce qu'étant Dieu, vous pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. Et la vie pour les parfaits, ça c'est la voie unitive, c'est la vertu de charité. Je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme, par-dessus toute chose, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. La vie pour les parfaits, les unissant à Dieu par les affections du pur amour. Donc si je suis la voie, la vérité et la vie, je vais passer de la voie purgative à la voie illuminative, à la voie unitive. La voie unitive, c'est la voie des parfaits. En voie purgative, il y a encore des péchés mortels, malheureusement, de temps en temps. La voie illuminative, il n'y a plus de péchés mortels, mais encore des péchés véniels. La voie unitive, il n'y a plus de péchés. Au ciel, il n'y a plus de péchés, même plus l'ombre d'un péché véniel. Autre texte magnifique, Saint Bernard. Je suis le chemin de la lumière et de la paix, la vérité qui vit sans peine, la vie plaisante et joyeuse. Je suis le chemin sur la croix, la vérité dans la fosse, la vie dans la joie et de la résurrection. Je suis la voie sans épines ni chardons, la vérité sans aiguillon d'erreur, la vie dans laquelle celui qui est mort revit. Je suis la voie droite, la vérité parfaite, la vie qui ne finit pas. Je suis la voie de la réconciliation, la vérité de la récompense, la vie de l'éternelle béatitude. Quelle beauté, mes bien chers frères, dans ces textes. Je vous conseille beaucoup, après ce cours, pour ceux qui m'écoutent, de reliser à tête reposée ces pages 28 et 29. Donc ces commentaires, ces pages 28 et 29 sont les commentaires des Pères de l'Église sur la phrase « Je suis la voie, la vérité et la vie » Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Donc conclusion, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Personne ne vient à moi, la vérité et la vie, si ce n'est par moi qui suis la voie. L'unique chemin qui mène au ciel, c'est l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, uni à sa divinité, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Autre texte, sens anthropologique, sens moral. Le Christ est la voie, Saint Basile. Le Christ est la voie, car les chrétiens doivent chaque jour marcher sur le chemin de la vertu, selon ces paroles du psaume. Ils avanceront de vertu en vertu. Le bon chemin dans la vérité ne connaît pas d'hésitation. Le Christ est la voie, non seulement par la foi, mais aussi par l'exercice des vertus. La foi ne suffit pas. Il faut l'action de la foi. L'action de la foi, la forme de la foi, c'est la vertu de charité. Vivre en état de grâce. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Vous pouvez croire toutes les vérités de la foi catholique. Vous pouvez croire l'intégralité du magistère de l'Église. Si vous n'avez pas la charité, vous êtes une cymbale qui retentit. Vous n'êtes plus rien. Saint Augustin, par moi, vous devez marcher. À moi, vous devez venir. En moi, vous devez demeurer. Et quand nous arrivons au Fils, nous arrivons aussi au Père. Le Saint-Esprit nous lie et nous unit plus fermement à lui, pour que nous demeurions pour toujours dans ce Dieu parfait qui ne change jamais. Donc le ciel, c'est un éternel présent, un présent qui ne s'arrête plus. Pour ça qu'au ciel, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. On ne peut plus changer, parce qu'on ne peut plus modifier sa course une fois qu'on est au ciel. Certains pères de l'Église disent que lorsqu'on tombe en enfer, la position qui est la nôtre au moment où on tombe en enfer sera celle que nous aurons pour toute l'éternité en enfer. Au contraire, si je vais au ciel, une fois que je suis dans la contemplation de Dieu, je ne peux plus perdre cette contemplation. Et plus je contemple Dieu, plus j'ai envie de lui. Relisez, mes bien chers frères, relisez ces pages 28 et 29 du Polycopier. Nous avançons avec les versets 8, 9, 10 et 11. Du chapitre 14 de Saint Jean. Philippe lui dit, « Seigneur, montrez-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui me voit, celui que voit... » Là, il y a une faute d'orthographe que je n'ai pas vue, une faute de frappe, voyons. J'ai toujours des erreurs, je m'excuse pour ces fautes que je n'ai pas vues tout de suite. « Celui qui me voit, voit aussi le Père. » Comment pouvez-vous dire, « Montrez-nous le Père ?» Pourtant, ça, c'est un copie-coller des textes directement de la Bible, de la Sainte Bible. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi fait lui-même mes œuvres. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Et ici, notre Seigneur va vraiment aborder la Sainte Trinité. Celui qui me voit, voit le Père. On va expliquer ce qu'on appelle la circumcession, chacune des personnes divines étant dans les autres personnes divines. Donc on ne peut pas avoir le Père sans avoir le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir en même temps le Père et le Fils. On ne peut pas recevoir le Fils en nourriture eucharistique par la Sainte Eucharistie sans recevoir en même temps le Saint-Esprit et le Père. Parce que c'est la même substance, même s'il y a une différenciation de personnes. Les paroles du Sauveur, donc disent les Pères, ne laissent point supposer en effet une seule et unique personne. Bien qu'elles expriment l'unité de nature, car en ajoutant « voit le Père », il exclut la supposition d'une personne unique, une force d'admettre qu'en vertu de l'unité de nature, le Père est vu dans le Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu en trois personnes, attention. La voix est une voix trinitaire, d'un Dieu trinitaire. Nous croyons en un seul Dieu trinitaire. Celui qui nie la Trinité n'est pas dans la voix. Pauvres musulmans qui nient la Sainte Trinité. Ils reconnaissent que Jésus est un prophète, ça leur fait une belle jambe. S'ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, l'unique vrai Dieu. Vous voyez ? Donc, il ne suffit pas de croire en Dieu pour aller au ciel. Il faut aussi croire en la Sainte Trinité. Or, les musulmans ne croient pas en la Sainte Trinité. Ne croyant pas à la Sainte Trinité, ils ne croient pas en Dieu, parce que le vrai Dieu est un Dieu trinitaire. On ne peut pas séparer le Dieu des musulmans, on ne peut pas séparer la Sainte Trinité du vrai Dieu. Le Sauveur voulait vivre de la foi avant de parvenir à la clairvision, car la contemplation est la récompense de la foi, et c'est la foi qui prépare les cœurs à cette récompense en les purifiant. Donc la contemplation est la récompense de la foi. Cette contemplation, c'est quoi ? Contemplation, c'est la vertu de charité, évidemment. La récompense de la foi, c'est la vertu de charité, la possession de Dieu d'une façon éternelle. L'essence de la divinité, page 30, est commune au Père et au Fils. Mais les deux personnes sont distinctes, car seule la personne du Fils a assuré la nature humaine. C'est donc, celui donc qui voyait le Christ comme homme, voyait directement la personne de Dieu, le Fils caché derrière l'humanité. Mais pas la personne du Père, sauf par concomitance. Celui donc qui reconnaît la divinité du Fils reconnaît aussi la divinité du Père, car ces deux personnes sont une substantiellement. Mot un peu compliqué. Lorsque je reçois la Sainte Communion le dimanche en état de grâce, lorsque je reçois la Sainte Communion, je reçois la grâce du bon Dieu, je reçois la vertu de charité, mais je reçois par la force du sacrement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par concomitance, puisque Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a maintenant un corps glorieux au ciel, par concomitance, je reçois aussi avec le corps le sang, l'âme et la divinité. De même que lorsque le prêtre communie au précieux sang, par la force du sacrement, il n'y aura dans le calice du vin consacré, il n'y aura plus de vin, donc ce sera la substance, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement et par la concomitance. Par concomitance, il y aura aussi le corps, l'âme et la divinité. Donc on peut prouver, à partir de ce passage, que les Ariens, contre les Ariens, que Jésus est réellement Dieu, que celui qui voit l'homme voit Dieu. N'oublions pas que Arius niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Arius pensait que notre Seigneur Jésus-Christ n'était que la plus élevée de toutes les créatures de Dieu. Donc on peut tirer de ce passage aussi, on peut prouver donc que la personne du Père est différente de la personne du Fils. Ça, c'est contre le sabellianisme. Le sabellianisme, c'est aussi appelé le monarchianisme, le modalisme, qui enseignait que la Trinité n'était pas vraiment réelle, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient que trois modes différents de la même personne. En fait, l'Église catholique a toujours enseigné qu'il y a trois personnes dans l'unité de nature divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a une seule personne dans la nature divine. Le Père a la même nature que le Fils et que le Saint-Esprit, dans le sens que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels. Ils ont la même substance divine. Attention, on ne peut pas dire la même chose de la nature humaine de notre Seigneur. On peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ a une nature humaine. Vous ne pouvez pas dire que la première personne et la troisième personne de la Sainte Trinité ont une nature humaine. C'est impossible, ce serait de l'hérésie. Le Père, première personne de la Sainte Trinité, n'a pas la nature humaine. La troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, n'a pas la nature humaine. Cependant, le Fils a la nature humaine. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels parce qu'ils ont la même substance divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils et pas le Saint-Esprit. Un Dieu en trois personnes. Donc on peut prouver à partir de ce passage donc, que Jésus est réellement Dieu contre les arianistes, les ariens. La personne du Père est différente de la personne du Fils contre les sabelliens. Cette diversité des personnes est marquée par les deux mots « moi » et « Père ». Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Et on peut prouver également que le Père et le Fils sont consubstantiels, ce que je viens de dire. Et le Père peut être vu sans le Fils et vice-versa. Philippe, vous irez quand, après m'avoir vu, vous désirez m'avoir vu, vous désirez voir le Père comme s'il était un autre Dieu. Comment pouvez-vous dire « montrez-vous le Père alors que je vous l'ai montré en moi ?» Les Saint-Esprits n'ont pas encore évidemment tout compris du mystère de la Sainte Trinité. On n'est pas encore au temps de la Pentecôte. C'est avec la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ, qu'ils vont avoir cette lumière qui va leur donner justement la compréhension beaucoup plus profonde du grand mystère de la Sainte Trinité. Il faut donc concevoir une union parfaite et intime d'une personne divine dans une autre et inversement. Le Père est dans le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils dans le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le Père et le Fils. Alors c'est ce qu'on appelle la circumcision. Je dis souvent ça comme exemple. Quand j'ai devant moi des gens qui me disent « Oh, monsieur l'abbé, moi, j'ai pas besoin d'étudier le catéchisme dont vous me parlez là sur votre site, Dame Marie. J'ai pas besoin de l'étudier parce que je connais déjà très bien mon catéchisme. Vous connaissez ?»« Oui, je connais toute la foi, monsieur l'abbé, pas de problème. La foi n'a plus de mystère pour moi. »« Ah bon ? C'est comme une session, c'est quoi ?» Alors là, j'en viens tout bas. « Ça, je sais pas. » »« Ah, vous voyez ? Vous avez besoin d'étudier ? Si vous savez pas ce que c'est que la circumcision, eh bien, vous pouvez pas aller au ciel parce que c'est une partie essentielle de la foi catholique. » Alors, vous devez étudier pour savoir ce qu'est la circumcision. Bon, c'est un exemple évidemment un peu amusant que je donne, mais c'est pour expliquer qu'on a tous besoin de travailler, moi le problème. Donc, qu'est-ce que c'est que cette circumcision ? Eh bien, c'est un texte c'est un dogme de foi en fait, qui a été énoncé d'abord par Saint Jean Damascène, un docteur de l'Église. Chacune des personnes divines est dans les autres. Non seulement ce qui regarde leur essence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels, mais aussi en ce qui regarde leur relation à leur propre personne, parce que toutes sont intimement unies et jointes avec les autres. N'oubliez pas que du Père au Fils, il y a une relation de paternité. Du Fils au Père, une relation de filiation. Du Fils et du Père, il va y avoir une relation de spiration pour créer le Saint-Esprit dans toute l'éternité, pour avoir le Saint-Esprit dans toute l'éternité. Et le Saint-Esprit procède, relation de procession, procède du Père et du Fils. Très important, surtout, c'est ce qui nous sépare entre autres des orthodoxes, qui ne croient pas à ça. Bon, rassurez-vous, c'est de la haute théologie, hein, circumcession, chacune des personnes divines est dans les autres. Sachez simplement que lorsque vous recevez la Sainte Communion, vous ne recevez pas simplement le corps, le Fils, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous recevez la Sainte Trinité tout entière. Et en fait, lorsque vous êtes en état de grâce, vous avez en vous l'habitation de la Sainte Trinité tout entière. Pas simplement Dieu le Père, mais aussi le Fils et le Saint-Esprit. Il s'ensuit que celui qui connaît et possède une personne divine, par exemple le Fils, comme les bienheureux le voient, voit non seulement la divinité commune au Père et au Fils, mais voit également la personne même du Père. Parce que la personne du Père est intimement reliée à la personne du Fils, et dans cette relation est incluse un ordre essentiel. Le Père, comme tout le Fils, est la cause de l'incarnation et des paroles prononcées par le Verbe incarné. Les œuvres de la Sainte Trinité ad extra sont communes aux trois personnes divines. Ça, c'est le résumé, si vous voulez, de toute la doctrine de l'Église sur ce sujet. Ça, c'est deux fois. Hein. Les œuvres de la Sainte Trinité ad extra sont communes aux trois personnes divines. Toutes les œuvres de la Sainte Trinité qui sont faites en dehors de la Sainte Trinité sont communes aux trois personnes divines. Vous voyez ? Donc on peut dire que, quand on dit que le Père a créé le monde, Vous pouvez aussi dire que notre Seigneur Jésus-Christ a créé le monde. Lorsque vous dites le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Pentecôte, vous pouvez aussi dire que Dieu le Père et Dieu le Fils ont été envoyés le jour de la Pentecôte. Bon, attention, je vous ai déjà expliqué, vous ne pouvez pas dire notre Seigneur Jésus-Christ a en lui une humanité dans l'unité de personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais vous ne pouvez pas dire que Dieu le Père est uni à l'humanité, parce que l'humanité est propre à la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est un petit peu compliqué, attention à ça. Donc, on continue d'avancer un petit peu. Je vais garder un peu plus longtemps pour ce cours parce que je voudrais avancer quand même dans ce cours parce que ça fait bien longtemps que j'ai commencé ce cours d'exégèse. Je voudrais bien le terminer pour faire d'autres choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et j'aime bien pouvoir vous les expliquer si Dieu me prête vie. Mais comme je deviens de plus en plus vieux, il faut que je me presse un peu. Donc, en bas de la page 30, voyons les versets 12, 13 et 14 de Saint Jean, chapitre 14. Croyez-le, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voyez un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet. Donc, encore une fois, là, il y a une allusion très nette à la Sainte Trinité. Oui. Ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous demandez au Père, c'est moi qui le fais, moi, Fils de Dieu, Fils du Père, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, parce que le Père et le Fils sont deux personnes de la Sainte Trinité qui est commune. Donc, si vous voulez, qui est l'union des trois personnes dans l'unité consubstantialité de la personne divine. Je crois que je vais arrêter là, c'est peut-être plus simple. Ce qui fait que j'ai encore besoin d'un cours complet pour expliquer la deuxième partie de ce chapitre 14 de Saint Jean. Après, il restera le chapitre 15 et j'aurai terminé ce dernier, avant-dernier fichier. Il me restera le dernier fichier qui contient les chapitres 16 à 21 de Saint Jean. Donc, je vais arrêter là et puis je reprendrai pour terminer ce chapitre 14 dans un autre cours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.